France Inter. .fr.
Bonsoir à tous. La parole de Théo face aux experts médicaux. Il n'y a pas eu viol pour les médecins qui l'ont examiné. Le jeune homme racontait jusqu'ici la matraque utilisée par un policier. C'était il y a un an à Aulnay-sous-Bois. La plainte pour viol contre Gérald Darmanin classée sans suite pour la deuxième fois. Celle pour abus de faiblesse fait toujours l'objet d'une enquête. Au sommaire également ce soir, Donald Trump qui fait taire une plaimette par contrat. Renault au sommet du marché auto mondial. Carlos Ghosn a choisi son copilote. Les régions pour le maintien des petites lignes de la SNCF. Les ados qui courent après les médailles olympiques. Le dernier roman de Nathalie Azoulay, très réussi pour Ilena Mor-Youssef. Et puis le temps du week-end, Mossad entre pluie et neige. On lui connaissait déjà une relation avec une actrice porno. Donald Trump a aussi eu une liaison avec une plaimette. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
C'est le New Yorker qui sort cette nouvelle affaire sexuelle dans la vie du président des États-Unis. Et là encore, Grégory, le scandale est évité à coups de dollars.
Oui, alors d'abord préciser que c'était une relation consentie entre deux adultes. Elle a duré 9 mois. En 2006, Karine McDougal était une ancienne playmate. Elle a d'ailleurs rencontré Trump dans une soirée organisée dans le manoir du propriétaire de Playboy à Los Angeles. Donald Trump, lui, était un businessman et présentateur de télé-réalité, marié depuis moins de 2 ans avec son épouse Melania, qui venait d'accoucher de leur fils Baron.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, Grégory, c'est le contrat signé avec la jeune femme pour la faire taire.
Oui, car en août 2016, c'est-à-dire 3 mois avant la présidentielle, contrat signé entre d'une part cette ancienne playmate, d'autre part un hebdomadaire à scandale, le National Enquirer, qui pour $150,000 a donc acheté le témoignage exclusif de la jeune femme. La playmate est alors soumise à un devoir de confidentialité, mais le magazine ne publiera jamais cette histoire, car le patron David Pecker est un ami proche du futur président. Ronan Farrow, l'auteur de cette enquête pour le New Yorker, était ce matin l'invité de ABC.
Dans ce pays, les hommes les plus puissants et les plus riches peuvent mettre en place un système très élaboré pour faire taire des gens et éviter que certaines histoires les concernant ne soient publiées. Qu'un président en place puisse bénéficier d'un tel système, c'est sans précédent.
Alors pour faire taire l'actrice Stormy Daniels, vous vous souvenez Sébastien que c'est l'avocat de Trump qui avait payé cette fois un magazine ami. Ses petits arrangements avec Playmate et autres actrices porno fragilisent Trump et même posent un problème de sécurité nationale, estime Ronan Farrow, car dit-il, quelqu'un de mal intentionné pourrait bien un jour s'emparer de l'une de ces histoires pour tenter de faire chanter le président.
Ronan Farrow qui avait sorti l'affaire Weinstein. Merci Grégory Phillips en direct de Washington. Le président américain quitte la capitale tout à l'heure pour aller rencontrer des victimes de la fusillade de Parkland en Floride, qui a fait 17 morts. Et on apprend ce soir qu'un proche du tireur a prévenu la police le 5 janvier que le jeune homme était menaçant. Mais l'info n'est jamais arrivée au bureau du FBI de Miami. En France, l'affaire avait provoqué émotion et colère et donné naissance à la PSQ, la police de sécurité du quotidien. C'était il y a un an, à Aulnay-sous-Bois. Théo, jeune noir de 22 ans, est filmé lors de son interpellation par des policiers. 4 d'entre eux sont mis en examen, l'un d'eux pour viol. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Théo dit depuis le début qu'il a été violé avec une matraque, sauf que pour l'expertise médicale que vous avez consultée, il n'y a pas viol.
L'expert conclut en tout cas, selon nos informations, que la matraque télescopique utilisée par le policier d'Aulnay-sous-Bois n'est pas rentrée dans l'anus du jeune homme. La déchirure musculaire très grave était juste à côté, sur près de 10 cm. Et judiciairement, cela pourrait évidemment entraîner une requalification des charges qui pèsent sur le policier, en l'occurrence, cette mise en examen pour viol. Ce que conteste formellement l'un des avocats de Théo, maître Antoine Veil.
Les expertises médicales ont été conduites, les conclusions ne nous ont pas encore été totalement identifiées, mais enfin ça ne va pas quand même atténuer le fait qu'il a reçu un coup dans la région de l'anus qui a entraîné des lésions extrêmement graves et gravissimes. Et quand je lis dans certains articles que du coup la thèse du viol serait totalement exclue, que la police aurait très bien fait son travail, je suis proprement choqué et mon client est proprement scandalisé. On est en train de parler de l'introduction d'un objet dans 10 cm qui a pénétré son intestin, donc je m'étonne de ce débat technique qui n'a vraiment aucun sens.
Pour l'avocat de Théo, il peut de toute façon y avoir eu une intention. C'est à la juge maintenant de décider. Elle devrait clôturer ce dossier si sensible la semaine prochaine, selon nos informations, sachant que l'autre expertise commandée par la magistrate estime que le coup porté était bien réglementaire. Mais sur ce point, là encore, la magistrate peut estimer malgré tout que l'usage de la matraque était disproportionné, qu'au moment de l'interpellation après la bagarre, Théo ne bougeait plus, qu'il était globalement maîtrisé et qu'il n'y avait pas besoin de porter un tel coup de bâton, surtout de cette façon.
Emmanuel Leclerc. Une plainte de moins pour Gérald Darmanin, celle déposée pour la deuxième fois par une femme qui accuse le ministre des Comptes publics de viol. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
L'enquête vient d'être classée sans suite.
Oui, c'est, vous l'avez dit, la deuxième fois que cette plainte est classée sans suite. La première fois, en juin dernier, Sophie Spatz n'avait pas répondu aux convocations des enquêteurs. Elle avait finalement demandé à être entendue mi-janvier pour dénoncer des faits de 2009. À l'époque, cette femme de 37 ans se démène depuis des années pour effacer de son casier judiciaire une condamnation pour chantage. Gérald Darmanin, alors chargé des affaires juridiques à l'UMP, aurait accepté d'intervenir en sa faveur en échange d'une relation sexuelle. Relation sous contrainte, selon la plaignante, ce qu'a formellement contesté Gérald Darmanin, entendu lundi par la police. Tout est donc allé très vite, puisque 4 jours plus tard, la plainte est classée sans suite par le parquet de Paris qui précise « Les actes d'enquête n'ont pas permis d'établir l'absence de consentement ni de caractériser l'existence d'une contrainte, menace, surprise » ou violence. Une décision logiquement saluée par Gérald Darmanin dans une déclaration à l'AFP. Depuis le début de cette calomnie, dit-il, j'ai toujours eu confiance en la justice. Le ministre a d'ailleurs porté plainte pour dénonciation calomnieuse envers Sophie Spatz. Et selon son avocate, la plaignante n'a pas l'intention d'en rester là. Elle peut encore déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour obtenir la désignation automatique d'un juge d'instruction.
Et l'enquête préliminaire pour une autre plainte. Merci Corinne Audouin, cette fois pour abus de faiblesse quand il était maire de Tourcoing. Cette enquête-là se poursuit. Le parquet précise qu'il y a encore des investigations à réaliser. En bref, encore une tentative de braquage ce matin dans une banque près des Champs-Élysées à Paris. Un homme de 24 ans avec un pistolet à billes à l'ouverture de la BNP, avenue de la Grande Armée. Il voulait accéder au coffre avec le directeur qui a sonné l'alerte. Les policiers arrivés sur place l'ont blessé puis arrêté. Le braqueur est bien connu des services de police. À Pantin, le voleur a eu plus de succès, qui est parti avec le violoncelle d'Ophélie Gaillard, révélé aux Victoires de la musique classique en 2003. Il l'a menacée d'un couteau alors qu'elle sortait de chez elle et il est parti avec son instrument fabriqué en 1737 et estimé à près d'1 300 000 euros. Les associations l'appellent la circulaire de la honte, la circulaire Gérard Collomb sur le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Une vingtaine d'associations avaient déposé un recours en référé pour la suspendre. Elles étaient aujourd'hui devant le Conseil d'État, où vous êtes aussi. Bonsoir Géraldine Allo.
Bonsoir.
Ces associations dénoncent un tri, là où le ministre de l'Intérieur explique qu'il veut connaître les personnes pour mieux les orienter.
L'audience a mis en lumière ce que l'on pressentait déjà, deux visions diamétralement opposées et irréconciliables de la circulaire Collomb. Pour les associations et leurs avocats, Maître Spinozzi, cette circulaire, appliquée depuis mi-décembre, a des effets délétères. Un, elle a désanctuarisé les centres d'hébergement puisque des personnels des préfectures peuvent y pénétrer. Deux, elle représente une atteinte à l'intimité des personnes hébergées car celles-ci doivent dire si elles sont en situation régulière ou non. Et trois, cette circulaire mais les responsables d'associations en porte-à-faux avec les personnes hébergées. Ils sont censés les aider. Ils les exposent désormais à une possible expulsion du territoire. De l'autre côté, la représentante du ministère de l'Intérieur fulmine. Elle dit que, au contraire, cette circulaire est très humaine, qu'elle a pour but de recenser les personnes hébergées pour mieux les orienter. Si ce sont des demandeurs d'asile, ils doivent être transférés dans des centres dédiés, les CADA. Si ce sont des migrants en situation irrégulière, ils ont vocation à quitter le territoire. Ce recensement, a dit la représentante de la place Beauvau, se fait sur la base du volontariat. On n'oblige personne à nous répondre. En face, les associations lancent cinglantes. Comment voulez-vous qu'on vous interdise l'accès aux centres d'hébergement alors qu'ils sont financés à 100% par l'État? Des préfets nous ont déjà menacés de sanctions financières. Le président de la séance intervient. J'espérais que les points de vue se rapprochent pendant cette audience. On en est loin.
Géraldine Allo, au Conseil d'État avec Jérémy Tuile, La décision sera rendue la semaine prochaine.
Renault est en grande forme et l'après Carlos Ghosn se prépare.
Oui, le groupe aux losanges et aux cinq marques dont Renault, Nissan et Mitsubishi est numéro un mondial. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Et il affiche un bénéfice net record en hausse de près de 50%.
Ah ben c'est bien simple, tous les chiffres présentés ce matin sont des chiffres records, des chiffres jamais atteints dans le passé. À commencer effectivement par le bénéfice net qui s'établit pour 2017 à un peu plus de 5 milliards d'euros et un chiffre d'affaires à 59 milliards d'euros en augmentation de près de 15%. C'est là aussi un record de ventes. Ventes et parts de marché ont progressé pour Renault partout dans le monde sans aucune exception.
Manuel Ruffez, conséquence de ces bons résultats, excusez-moi, Carlos Ghosn reste aux commandes, on le disait dans les titres, et il prépare sa succession.
En exprimant quelques craintes pour cette année 2018, notamment une hausse des matières premières, des incertitudes liées au taux de change, ou encore aux futures homologations, notamment environnementales. Mais Renault lance son nouveau plan pour les années à venir, avec le lancement de 21 modèles, 13 extensions géographiques, en route, comme le précise Carlos Ghosn, vers le véhicule électrique connecté autonome. Et puis lui le dit très clairement, sa feuille de route, c'est 1. D'assurer la solidité de l'alliance Renault-Nissan, quel type d'organisation, de gouvernance et de structure, et 2. D'assurer sa propre succession, une transition en douceur, car il y a une fin à tout, a-t-il conclu ce matin, il y a une fin à tout, tout doit être organisé.
Plus de 5 milliards d'euros de bénéfices nets, merci Manuel Ruffez, mais les syndicats de Renault dénoncent une baisse inacceptable des primes d'intéressement pour les salariés de 6 à 24% selon les postes. De la route au rail, le rapport Spinetta sur l'avenir de la SNCF continue de faire du bruit. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, annonce sur Inter une manifestation nationale des cheminots le 22 mars, et ça coince aussi dans les régions à propos des petites lignes peu utilisées et que le rapport préconise d'auditer avant peut-être de les fermer. Pas question, dit le maire de Nice, Christian Estrosi, rejoint par le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Il était l'invité de Bruno Duvica à 13h sur Inter.
Quel aménagement du territoire veut-on pour la France ? Est-ce qu'on veut que tout se concentre dans les villes, avec les problèmes d'atmosphère et d'air que l'on a à Paris, à Bordeaux ou dans d'autres villes ? Tout ça n'est pas sérieux. Est-ce que la France pourrait se sortir de ce pays où un microcosme, parisien décide de tout ? En quoi M. Spinetta va venir ici en Aquitaine, devant l'Assemblée régionale, décider que je ferme la liaison entre Agen et Périgueux, par exemple, entre Limoges et Poitiers? C'est le vieux débat, là, sur la dépense publique. Mmh. Aujourd'hui, on a besoin de dépenses publiques. Si on veut avoir une stratégie d'aménagement du territoire, de cadre de vie, plutôt qu'une stratégie uniquement budgétaire, ça signifie que il faut accompagner un peu plus, comme le fait l'Allemagne, comme le fait l'Italie, comme le fait l'Espagne.
Une nouvelle journée de grève pour les personnels des EHPAD, ce sera le 15 mars, toujours pour réclamer de meilleures conditions de travail dans les maisons de retraite. Les Compagnons de la Libération ne sont plus que 8 encore en vie. Jacques Hébert vient de mourir. Il rejoint les Français libres à Londres à l'été 40, s'engage dans la deuxième division blindée du général Leclerc, débarque à Utah Beach le 6 juin 44 et participe à la libération de Paris et combat jusqu'au bunker d'Hitler à Berchtesgaden. Jacques Hébert se disait gaulliste de gauche. Il a ensuite été député maire de Cherbourg. Il avait 97 ans. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan n'en a pas terminé avec sa peur de la presse et elle continue, elle a toujours la volonté de la museler, cette presse. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Trois journalistes turcs sont condamnés à la prison à vie. Le pouvoir les accuse d'avoir participé à la tentative de coup d'état de l'été 2016.
Oui, deux frères, Mehmet et Ahmet Atlan, une femme, Nazi Ilicak, trois journalistes de 65, 67 et 73 ans. Et dans ce dossier d'accusation qui les conduit avec trois autres co-accusés à la peine de prison à perpétuité, et bien quasiment rien, trois chroniques et surtout une émission de télévision diffusée la veille du coup d'état de juillet 2016. Ils sont accusés d'y avoir fait passer des messages subliminaux, plus exactement d'avoir prononcé des phrases codées pour déclencher le coup d'état. Phrases destinées selon la justice turque au réseau du prédicateur Fethullah Gulen, l'ennemi juré du président Recep Tayyip Erdogan. Les trois journalistes sont des figures connues de l'opposition et de la vie intellectuelle turque. Ahmet Atlan est même romancier, publié en français par Actes Sud. Leur condamnation envoie un message d'autant plus lourd que la Cour constitutionnelle turque avait elle-même demandé le mois dernier en vain la libération de Mehmet Atlan. Indépendance de la justice, liberté de la presse, terreur répressive, ceux qui ont suivi ce procès comme Reporters sans frontières parlent de simulacre de justice. Depuis le coup d'État, plus de 50 000 personnes ont été arrêtées en Turquie et plus de 140 000 ont perdu leur emploi dans les grandes purges.
Claude Guibal, un journaliste germano-turc, a par ailleurs été libéré aujourd'hui. Liberté conditionnelle après plus d'un an de prison pour propagande terroriste. Il sort parce qu'il vient d'accepter l'acte d'accusation qui réclame 18 ans de prison contre lui. Pas de date pour l'instant pour le procès. Elle n'a que 16 ans et elle est en argent. La française Julia Pereira de Souza, vice-championne olympique de snowboard cross. L'adolescente participe à Pyeongchang à ses premiers JO. Elle est désormais la plus jeune médaillée du sport français aux Jeux d'hiver. Et dans l'équipe de France, Vanessa Marguet, elles sont trois à avoir 16 ans.
Julia Pereira de Souza en snowboard cross, Tesla 2 en ski slopestyle et Lucille Mora en saut à ski. Rien n'arrête la jeune génération et ce n'est pas tellement étonnant pour Kevin Roland, le médaillé à Sochi en ski halfpipe.
Dans les sports freestyle, c'est de plus en plus jeune. C'est un sport où on est fort très vite. Le fait qu'il y ait aussi ce petit grain de folie, l'insouciance de la jeunesse aide à être meilleur rapidement.
Et l'autre point fort, c'est que ces ados ont moins de pression, rien à perdre. Julia Pereira de Souza le dit, c'est sa force.
J'ai jamais vraiment beaucoup stressé pendant les compétitions. Je me suis toujours donné des objectifs plus hauts que ce que j'étais peut-être capable de faire.
Toute championne qu'elle est, Julia reste quand même une ado. Pareil pour Tesla 2 ou Lucille Mora. Et comme tous les ados, elles doivent aussi apprendre à concilier la vie d'athlète et les études au lycée, avec un emploi du temps aménagé. Lou Barin, qui est à peine plus vieille, 18 ans, raconte qu'il faut amener les cours sur les compétitions.
D'habitude, j'ai toujours une pochette avec une matière et je travaille la matière pendant les déplacements. Sinon, ma mère me dit, dès que je rentre, elle me fait bien rappeler qu'il y a aussi le travail et le bac après.
Elles essaient de tout gérer, mais ces jeunes athlètes se reposent aussi beaucoup sur leur famille, peut-être un peu plus que leurs aînés. À Pyeongchang, Vanessa Marguet, France Inter.
Le sport hors des terrains avec les suites de la virée nocturne des rugbymen tricolores à Édimbourg dimanche dernier, après leur défaite contre l'Écosse dans le tournoi des Six Nations. Plusieurs joueurs interrogés par la police écossaise, enquête ouverte par la Fédération française de rugby et 8 exclus de la sélection nationale. Des mesures aussi dans leurs clubs respectifs. Le Racing 80 retire sa prime d'éthique de février à Teddy Thomas. Le troisième ligne centre de Montpellier, Louis Picamol, sera remplaçant demain en top 14 à Oyonnax. Et le président de Toulon a aussi décidé de punir Anthony Bello. Il le prive du match de demain face au Stade français. Mourad Boudjelal est avec Cécilia Arbonin.
Je ne comprends pas qu'un joueur exclu du groupe France, pour des motifs autres que sportifs, puisse jouer en championnat. Dans ce cas-là, ça annule totalement la sanction de la fédération. C'est pas cohérent. Alors chacun fait comme il veut, bien sûr. Mais nous, on a décidé que le nôtre ne jouera pas. Nous, au départ, on était parti sur une sanction financière parce qu'on n'a pas encore la vérité sur cette affaire. Ensuite, si dans un second temps, effectivement, on a une vérité et que cette vérité ne nous fait pas plaisir, on passera à l'étape 2.
Qu'est-ce que vous savez exactement des choses, vous ?
Il s'est passé quelque chose. C'est des gamins qui ont fait des bêtises. On perd les matchs et les joueurs sortent faire la fête. Mais là, la sortie, c'est la récompense de quoi ? Si les joueurs, ils avaient mis 40 pions à l'Écosse et qu'ils étaient sortis faire la fête derrière, personne ne dirait rien. Mais aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'ils portent non pas le maillot de l'équipe de France, mais ils portent le drapeau de la France. Quand on perd, surtout comme le fait l'équipe de France en ce moment, on monte dans l'avion et on rentre chez soi.
Avec la tête basse ?
Ben oui, avec la tête basse, pour rester poli.
Certains disent que c'est le plus beau roman de ce début d'année, Les Spectateurs de Nathalie Azoulay. L'histoire d'un déracinement, une famille dans la France des années 60, chassée d'un pays qui n'est pas nommé et qui tente de s'inventer une nouvelle vie. Un livre, Ilana Mor-Youssef, où les stars de cinéma des années 40 et le général de Gaulle jouent un rôle inattendu.
Le général de Gaulle est un peu le moteur de ce roman. Pas lui directement, mais les mots qu'il prononce lors d'une conférence de presse sur fond de guerre des six jours au Proche-Orient. Ces mots sont comme une foudre qui s'abattrait en plein milieu du salon où une famille s'imagine avoir recréé un petit îlot de sécurité. Nathalie Azoulay.
J'ai voulu commencer par cette figure télévisuelle parce que j'avais à cœur de commencer mon roman dans un salon avec une famille devant la télévision. Pour moi, c'était l'occasion et la scène d'un huis clos familial névrotique que je voulais absolument explorer. Je voulais une famille figée, je voulais une famille enfermée, une famille symétrique, deux enfants, deux parents, avec cet objet central qu'est la télévision, et des réactions en chaîne, à la fois tues et dites, autour de cet écran de télévision.
La télévision n'est pas le seul écran, il y a aussi le cinéma, car dans ce roman, la mère ne vit qu'à travers les films américains des années 40. Elle affronte la vie, vêtue de robes copiées sur celles des stars de ses films préférés.
Pour moi, c'était l'occasion de mettre en scène une mère qui vit ailleurs, qui vit dans ses rêves, qui échappe au quotidien, qui se forge des patries fantasmatiques. C'est dit entre les lignes et c'est sans cesse présent. Ce roman est construit autour d'un trou qu'est le déracinement, d'un arrachement au pays natal. Le roman travaille autour de cette perte et raconte comment chacun s'organise pour l'oublier et pour la transformer.
Le pays perdu n'est jamais nommé, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est la question qui court en filigrane tout au long des pages. Qu'est-ce qu'être chez soi ?
Les spectateurs de Nathalie Azoulay, c'est publié aux éditions POL, Claire.
Merci beaucoup Sébastien Paour et bon week-end. Dans un instant, des nouvelles du temps.
La météo avec Région Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur regionjob.com.
Rebonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire.
Temps maussade sur l'Est avec même de la neige, dites-moi.
Oui, l'accalmie d'aujourd'hui n'aura été que de courte durée puisqu'une perturbation aborde actuellement le centre-ouest. Elle sera surtout active demain matin sur une large moitié est du pays, puis entre les frontières allemandes Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur demain après-midi. Cette perturbation apportera de la neige sur les Alpes des 1800 mètres le matin, plus bas l'après-midi vers 1300 mètres. Mais sur l'Alsace et la Lorraine, il va neiger en pleine. On pourra avoir localement de 5 à 10 cm. Sur le sud-ouest jusqu'au bord de Loire, les éclaircies seront généralement timides et il faut même s'attendre à quelques averses neigeuses sur l'ouest des Pyrénées. Temps plus calme des côtes de la Manche au Pays de la Loire et au Pas-de-Calais avec du soleil et des belles éclaircies grignotant un peu de terrain demain après-midi jusqu'aux Ardennes, à l'Île-de-France et au Poitou.
Et pour dimanche ?
Eh bien ce sera nettement mieux avec le retour du soleil sur la majeure partie du pays après dissipation des brouillards matinaux. On gardera quand même des résidus nuageux plus nombreux le long des Pyrénées et près de la Côte d'Azur et la Corse. Mistral et Tramontane vont se lever autour du golfe du Lion et puis malheureusement le nord-ouest verra l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui apportera déjà des pluies entre Bretagne, Normandie et Pays Nantais et un ciel de plus en plus nuageux à l'avant de cette perturbation. Et puis un mot sur les températures qui seront froides le matin avec de fréquentes gelées sur un large quart nord-est.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.